vraie ville PM. Opinion. Voici Fred Savard.
En tête dans la cueillette, les frais, c'est les francs-bois. À l'ivraie, c'est les francs-bois. Du bon vin, j'en ai bu. Croyez-moi, belle fille de la croix, jamais me suis tant plu.
Fred, je te vois venir, j'ai jamais chanté ce tune-là. Puis je vais l'affirmer, on va se battre si t'es pas d'accord, j'ai jamais fait de gramophone.
Non, je.
T'as fait de l'imprès, mon maudit.
Ouais, alors c'est la famille Souci. Pourquoi cette chanson? Parce qu'on va parler de framboise. Je sais que ça parle d'un sujet d'actualité. Moi-même, je m'étonne des fois.
Ben, c'est un peu estival quand même, là.
Oui, oui, en fait. C'est le fun. En fait, c'est deux.
D'ailleurs, ça fait du bien, je vais dire, aujourd'hui.
Oui. Oui, oui. Deux grosses nouvelles dans le monde du bon manger québécois. Il y a des entreprises, en fait, des producteurs de framboises qui ont envie que la framboise québécoise soit disponible à l'année longue dans les épiceries. Ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Oui.
Vous savez que les framboises québécoises sont comme les jeunes milléniaux de gauche. Elles sont rouges, elles ont beaucoup de saveur, mais elles sont très fragiles.
Oui, mais elles sont pas carrées.
Non. Mais la framboise est difficile à cultiver. On le sait ici, on en a dans. Moi, je pense que c'est les meilleurs au monde, les framboises québécoises, sans faire de chauvinisme de petits fruits.
Oui, c'est parce qu'en faisant moins de transport, il y a moins de cochonneries voilà. Pour les préserver.
Voilà, entre autres. Mais c'est un fruit difficile à faire pousser.
Et là, l'hiver, tu le fais en serre?
Ben non, c'est ça. Là, depuis 10 ans, il y a. Faut savoir que, je ne savais pas ça, il y a 519 framboiseries québécoises qui produisent pour 8 millions de dollars de framboises. Dans les bonnes années de culture, les épiceries en importent 10 fois plus. Entre autres, la framboise de Californie, on ne nommera pas la compagnie, mais c'est souvent la même, qui est bonne à l'année et qui est très, très peu chère. Parce que c'est ça le problème, c'est ça le nerf de la guerre, c'est que...
La masse.
Oui, et la framboise d'ici est un petit peu plus chère. Et là, il y a plusieurs producteurs de framboises qui ont décidé, et ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus, de développer des techniques et d'aller chercher des cultivars qui vont être capables de résister au froid, parce que la framboise est très fragile à la pluie, au vent et au soleil intense. Et c'est pour ça que la période de croissance, elle est très courte. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, comme tu dis, parce que je pense qu'il va falloir... il faut le faire. On parle de réchauffement climatique, on parle d'environnement et le transport. Tu sais, on parle des routes, tout est lié. On parle de l'entretien des routes, mais quand on fait venir des fruits et des légumes qui viennent du sud du Mexique, qui viennent d'Amérique du Sud, souvent, ça roule
sur les routes. La pollution que ça
génère... Oui.
Les additifs qu'on met pour qu'ils fassent le transport puis qu'ils gardent une belle couleur rouge fakée, qui n'est pas vrai.
Oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Ça laisse une trace environnementale. Fait que là, quand je vois des entreprises, des producteurs qui veulent développer, mais qui travaillent fort depuis 10 ans, j'espère qu'on va encourager ça. Moi, je trouve que souvent, on prend pour acquis que la nourriture doit être pas chère. Parce qu'il y a du dumping, parce qu'il y a des multinationales qui inondent le marché. Puis, tu sais, les framboises en Californie, pourquoi elles sont pas chères? Ben, si vous lisez un peu là-dessus, vous vous rendez compte que c'est parce que il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont souvent pas loin d'être séquestrés. On parle, il y a même certains observateurs qui parlent, entre autres en Californie et au Texas, d'esclavage moderne. C'est qu'on séquestre des travailleurs qui ont souvent confiscation de passeport, qui n'ont pas de recours et qui travaillent pour à peu près rien. Alors, ça maintient les prix très bas.
Les framboises.
Bon, voilà. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu payes un casseau de framboise, là, 2 pour 2 $, des fois 3 $, puis là, on regarde la framboise québécoise, je trouve que des fois, on devrait être un peu plus chauvin dans où on met notre argent, entre autres. Puis moi, des fois, je trouve aussi, dans les épiceries, même québécoises, pendant que les récoltes battent leur plein dans les champs, on a quand même des fruits et des légumes de la même sorte qui viennent d'ailleurs parce qu'elles sont moins chères. Ça me dépasse, mais je comprends que c'est une logique strictement marchande. Mais à un moment donné, le consommateur a son mot à dire, puis c'est un peu lui.
On devrait peut-être aider plus les PME, les petites et moyennes entreprises. C'est le principal de la culture d'emploi du Québec, c'est la petite et moyenne entreprise.
Oui, tout à fait. Et c'est souveraineté alimentaire. Moi, je pense que c'est des principes qu'on devrait mettre de l'avant. On devrait avoir cette espèce, comme tu dis, moi, je pense que le vrai mot, c'est pas chauviniste, c'est fierté. Et les fraises et les framboises, entre autres, au Québec, sont tellement bonnes qu'on devrait accepter de payer
toi,
un peu plus cher.
T'es tellement bon, chante-nous la toune.
Non. Non, pas du tout. Et l'autre bonne nouvelle, Oui, c'est. On va en parler un petit peu plus tard parce que je pense que tu vas recevoir une nutritionniste et l'entrepreneur qui est derrière ça. C'est la version québécoise du des fameuses boulettes Beyond Meat qui ont défrayé la manchette, entre autres parce que on parle de. Tu sais, moi, je suis presque. Bon, je suis végétarien, genre à 97% depuis à peu près un an. C'est que je mange. Des fois, j'ai des rechutes de poulet sur mon barbecue au charbon de bois l'été. Mais sinon, je mange à peu près jamais de viande depuis plus qu'un an. Et je me rends compte comment c'est polarisant. Parler de ça, la nourriture, puis manger de viande versus manger de viande. Puis on se rappelle quand le guide alimentaire canadien a été réformé, comment les chroniqueurs, entre autres, et les chroniqueuses certaines, en revenaient pas. On venait jouer dans notre identité, on est des mangeurs de viande. Et là est apparue la mode du Beyond Meat, qui a commencé dans les chaînes de restauration rapide, maintenant dans les épiceries, et c'est de la boulette vraiment qui goûte la viande. Mais on s'entend que...
C'est la texture qui est surprenante.
Mais même le goût.
Oui, c'est pas très loin. En tout cas, moi, je peux... Je suis pas aussi loin que toi, mais je suis sur le chemin. Ouais. Moi, j'ai arrêté la viande rouge. Ouais. J'essaye... poulet, c'est dur à rester.
Oui,
surtout
oui puis moi, j'ai, avec la famille aussi, des fois, c'est que tout le monde embarque dans le...
Mais,
là-dedans, c'est pas
mais
évident.
Je cherche des solutions qui me satisfont. Parce que juste manger des affaires qui me satisfont pas tout le temps, mais c'est passé.
Oui.
Puis Beyond Meat a été le premier à me dire, écoute, non, moi, je mange un burger comme ça, je correct.
Oui, c'est mais... ça. Je te dirais que c'est... Bon, en fait, là, pour finir, c'est que là, c'est François Cardinal, en fait, qui est un entrepreneur du nord de Montréal. Non, elle n'a pas mélangé avec
le journaliste.
Le journaliste, qui est parfois Beyond Meat dans ses textes, mais ça, c'est une autre histoire.
Vous connaissez, mais...
mais lui, il va mettre de l'avant, dans le fond, le pendant québécois du Beyond Meat. Alors, encore une fois, je trouve ça intéressant parce que c'est une entreprise d'ici, c'est du nord de Montréal. Sobase distribue déjà ses produits. De toute façon, il va pouvoir vous en parler un petit peu plus tard, en long en large. Mais je trouve ça intéressant, cette espèce de dynamisme-là, entrepreneurial, dans ce domaine-là, parce que c'est un marché en croissance, parce que les gens, je pense, prennent conscience, oui, pour l'environnement, oui, sur le plan éthique, manger des animaux, pour bien des gens, c'est de moins en moins acceptable, mais c'est comme on est, c'est quand t'arrêtes d'en manger de la viande. Moi, ça a été ça le déclic, c'est que tu te sens beaucoup mieux. C'est un gain d'énergie qui est différent et je pense qu'il y a un marché là puis je trouve ça vraiment intéressant que des entrepreneurs québécois embarquent dans cette parade, mais ça reste quand même, moi je trouve tout ce qui est imitation de viande, c'est une transition parce que quand tu arrêtes de manger de la viande, ben tu recherches plus les imitations de qui goûtent la viande. Moi je pense que ça peut être intéressant
c'est comme vapoter là.
Oui, c'est ça, à un moment donné tu arrêtes de faire de la boucane point. Puis tu fais d'autres choses. Mais ça peut être intéressant, des fois, Beyond Meat et ces imitations-là de burgers pour des gens qui ne sont pas convaincus qu'ils sont capables d'arrêter de manger de la viande et de prouver qu'un souper sans viande peut être le fun dans la bouche. Je pense que c'est le point.
Mais s'il te plaît, ça, c'est moi, c'est exactement moi, ça.
Parce que sur le plan nutritionnel, ça reste
la. C'est plus la peur que du vrai goût.
Oui.
J'ai plus peur de venir en manque de viande que je suis vraiment en manque de viande. Chez nous, je suis capable de cuisiner comme il faut. Je me fais des bonnes affaires, puis je suis parfaitement satisfait. Des fois, si j'ai vraiment une grosse faim, je vais me faire une tonne de champignons. Puis champignons, ça pose tout droit. Ça, comme, c'est agréable. Oui.
Des fois, même direct dans le compost.
Oui. Tu peux le manger.
Mais tu sais, en même temps, Daniel, la peur, c'est une invention de notre esprit.
Oui, mais qui est bien commode de temps en temps.
Oui, tout à fait, qui peut être très utile. Autre sujet... Je vous parle de Josh Freed. Je sais pas si vous avez sûrement pas vu ça parce qu'il y a toujours deux solitudes, souvent sur le plan médiatique. On lit pas toujours la Gazette de Montreal Gazette au complet. Mais là, vous savez, Valérie Plante a, en fait, l'administration du plateau de Projet Montréal, j'allais dire du plateau Montréal, de Projet Montréal, a changé la signalisation et, en fait, a réglé un problème qui était récurrent pour bien des gens, c'est-à-dire l'accès au Mont-Royal en vélo, à pied, autrement qu'en voiture. Et là, évidemment, Josh Freed fait un texte pour planter carrément la mairesse Plante parce qu'il trouve que l'accès à la voiture sur le Mont-Royal est catastrophique et c'est une des plus belles routes de Montréal qu'on ne peut plus, on peut pas en profiter comme avant. Ça me fait un peu rire, ça, parce que je trouve que ça dénote vraiment deux solitudes. D'abord, la solitude, le rapport entre les automobilistes et les cyclistes, parce que moi, j'aimais bien cette approche-là. Puis c'est Luc Ferrandez, à l'époque, qui est encore en politique, qui avait piloté ça, c'est-à-dire de rendre le côté naturel au Mont-Royal, puis enlever les chars. Parce que c'est bien beau de dire, hey, on s'en va en char sur le Mont-Royal, on fait un tour de machine, puis on revient, mais je trouvais que l'aspect parc, l'aspect nature, puis des îlots de nature, il n'y en a pas tant que ça à Montréal quand on y pense, là. Et c'est quand même fantastique d'avoir en plein centre d'une ville, une montagne. Et
mais c'est parce que toutes ces années-là, malgré tous les développements, avoir réussi à préserver une montagne quand même assez naturelle, à son état presque naturel, dans le milieu d'une grande métropole, je trouve ça assez extraordinaire.
Je trouve que, je pense que c'est intéressant de pousser l'idée que c'est une réserve naturelle, en fait, puis essayons de la préserver naturelle. Donc, essayons de réduire l'accès à la voiture qui est envahissante. Puis là, il y a eu un accident, évidemment, il y a un cycliste qui est décédé avec une manœuvre dangereuse d'un automobiliste. Et là, Josh Freed fait un texte pour dire que c'est vraiment dégueulasse ce que Montréal a fait, ce que la mairesse Plante, l'administration Plante a fait au Montréal. Ils ont installé des dos d'âne. Puis là, ils ont réduit, évidemment, la largeur des voies pour les voitures. Ils ont élargi celle des cyclistes. Et là, c'est un long texte. Je pense qu'il y a 8 points, vraiment. Puis c'est vraiment... puis là, il y a des files d'attente. Puis aussi, faut quand même l'avouer, pour bien des gens, passer sur le Mont-Royal en auto, c'était aller travailler au centre-ville puis retourner dans sa, dans sa ville cossue. Oui, c'est ça, c'était un raccourci.
Il venait pas visiter, il passait par là puis il s'en sacrifiait.
C'était un raccourci. Et il se plaint évidemment qu'il y avait des panneaux de signalisation seulement en français. Puis ça, j'avoue que c'est vraiment dégueulasse. S'il fallait que des gens installés ici depuis 6 générations se mettent à apprendre quelques mots de français sur un panneau de signalisation, là, ça serait vraiment le comble. Mais je trouve.
As-tu suggéré de s'acheter un vélo?
Mais. Non, je vais pas faire. Mais je pense que M. Freed a quand même 70 ans.
Ben, une petite mopette. Un vélocipède. Peut-être.
Mais tu sais, il parle d'un panneau avec 2 mots en français, puis il prétend que toute cette refonte-là va faire de l'anxiété. En fait, procure de l'anxiété aux gens qui vont sur le Mont-Royal. Je trouve que des fois, on tire en épingle des choses qui sont juste, qui tombent sous le sens. C'est-à-dire qu'on peut-tu. Je pense pas qu'il manque de voitures à Montréal. On peut-tu, des fois, juste réduire certains espaces, dont le Mont-Royal, qui est une réserve naturelle intéressante de redonner à la nature cette montagne-là, puis de laisser faire la culture du char pour qu'on soit capable d'avoir accès à tout en char tout le temps. Tu sais, le Mont-Royal, ce qui est le fun, là, part du parc Jeanne-Mance, puis prend les sentiers à pied et en vélo. Ça va te prendre une heure et quart, puis tu vas monter en haut, puis ça va être... T'as pas besoin de faire ça en char là, pour profiter du Mont-Royal. Fait que, moi, je trouve que c'est intéressant, puis je sais que s'il y a des résistances, on va installer des boulevards de vélo, il y a toujours de la résistance.
Non, mais c'est fait, il faut réduire, être en forme, parce que moi, après ma chimio, je l'aurais pas grimpé en vélo, ça maudit ce côte-là, c'est certain.
Non, tu parles de la grosse côte, là. Oui. La Camille Hood, non.
Ben quand tu passes par la rue Mont-Royal.
Mais il y a un sentier qui serpente le Mont-Royal sous le couvert des arbres qui n'est pas du tout.
Il n'est pas si difficile que ça.
Ben non, pas du tout. Puis on peut y faire du ski de fond l'hiver aussi. Puis moi, je suis toujours pour réduire la présence des voitures, pas les interdire, mais elles sont partout à Montréal. On est dans une culture de la voiture. J'en ai déjà parlé ici, mais les pistes cyclables sont souvent... on stationne ces pistes cyclables. Puis là, on a un columniste qui est comme, hey, notre beau chemin qu'on aimait donc rouler en voiture. Mais non, les choses changent. Puis je pense que dans ce cas-ci, c'est pour le mieux. Puis j'ai l'impression que toute cette signalisation-là va être temporaire. C'est une question de changer les mentalités, changer la culture. Mais la cohabitation, des fois, elle n'est pas possible entre les voitures et les cyclistes. Puis souvent, c'est la voiture à une tonne de métal qui est problématique et non pas le gentil cycliste. Voilà. J'ai fait ma petite montée de liste et je vais aller manger des framboises pour me calmer.
Oui, voilà. Un bon jus de framboise. Ça va être fantastique. C'était la chronique de Frédéric.
Je me fous du monde entier quand Frédéric...
Après la pause, on revient avec Jordan Dupuis.